Bonjour Maïlys, et à lundi pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre semaine consacrée à Joseph Conrad, une série qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek et avec à la console Yanis Djoulad. L'exil, la mer, la littérature, tels sont les trois moments qui ont scandé la vie de Joseph Conrad, né au sein d'une famille issue de la noblesse polonaise en 1857 et mort en 1924 à Bishopsburn en Angleterre. Entre ces deux dates, ce sont donc trois vies qu'il a eu à traverser, bien souvent dans de grandes difficultés. Son existence, elle nous a été racontée lundi par Alain Dugrand dans une émission que vous pouvez, comme toutes les autres d'ailleurs, retrouver en podcast ou bien directement sur notre site. Mardi, nous nous sommes arrêtés avec Alain Jaubert sur le court roman de Joseph Conrad, La ligne d'ombre, dans lequel il raconte, de façon à peine déguisée, quoique teintée de fantastique, son premier commandement de navire par un temps de complète pétole, c'est-à-dire sans le moindre souffle d'air, avant que tout à coup une tempête ne se déclare. Alain Jaubert nous a également parlé de Rimbaud et de la rencontre imaginaire entre l'auteur d'Une saison en enfer et l'auteur de Lord Jim sur le port de Marseille. Enfin, hier, nous recevions Marc Poré, l'artisan de la sortie il y a quelques jours du volume de la Pléiade intitulé « Au cœur des ténèbres et autres écrits » dont il a rédigé la préface. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour revenir sur quelques thèmes abordés dans le cahier de Lerne Conrad qu'il a coordonné avec Josiane Paco-Huguet, je recevrai en seconde partie de cette émission Claude Maisonna. Et en première partie, c'est Michel Lebris qui est avec nous. Michel Lebris, écrivain, auteur notamment du roman Kong, paru il y a quelques semaines chez Grasset, fondateur aussi du festival Étonnant Voyageur. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Ce fut je ne sais quoi de formidable et de prompt, pareil à l'éclatement soudain du grand vase de la colère. L'explosion enveloppa le navire avec un jaillissement tel qu'il sembla que quelque immense digue venait d'être crevée à l'avant. Chaque homme aussitôt perdit contact. Car tel est le pouvoir désagrégant des grands souffles. Il isole. Un tremblement de terre, un éboulement, une avalanche s'attaque à l'homme, incidemment pour ainsi dire, sans colère. L'ouragan, lui, s'en prend à chacun comme à son ennemi personnel, tâche à l'intimider, à le ligoter membre à membre, met en déroute sa vertu. À travers l'obscurité, les lames semblaient de toutes parts se ruer pour le repousser à sa paix. Dans leur acharnement, on sentait de la haine, de la férocité dans leurs coups. On eût dit une créature vivante en proie à une foule enragée, victime offerte, brutalisée, bousculée, culbutée, roulée à terre et piétinée. Le capitaine et Jukes ne se lâchaient plus, assourdis par le bruit, bâillonnés par le vent. Et ce grand tumulte physique qui secouait leur corps atteignait et désemparait l'âme comme eût fait la passion déchaînée. Un de ces cris sauvages, effarants, que parfois l'ouragan transporte et qui passent au-dessus de nos têtes mystérieusement, s'abattit soudain sur le navire comme eût fait un oiseau de proie.
Une lecture d'un passage de Tempête dans le roman Typhon de Joseph Conrad, lui ici, par Denis Podalydès. Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
Alors c'est peut-être pour le lecteur que vous étiez enfant, celui qui avait peut-être un peu peur des tempêtes, que Conrad a été très important. Vous allez nous raconter un petit peu ce rapport que vous avez depuis très longtemps avec cet écrivain.
Mais pas seulement peur, d'ailleurs fasciné aussi bien sûr par ces tempêtes. Oui, je l'ai découvert quand j'avais 10 ans, grâce à cette miraculeuse collection qui s'appelait, enfin elle s'appelle encore, mais ça n'est plus ce que c'était, la bibliothèque verte, je crois que c'était le nègre du Narcisse, puis Typhon, je crois. C'était le moment où je découvrais la littérature, en fait, donc je lisais tout dans le désordre. J'ai eu la chance d'un prof de français en sixième qui m'a laissé d'avoir sujet libre pendant 4 ans. Il m'a dit, écoute, t'as l'air d'aimer écrire. Moi, je donne des sujets, mais si t'en as d'autres en tête, écris les histoires qui te plaisent. Et en m'ouvrant sa bibliothèque, en plus, en me laissant lire dans le complet désordre, partant d'un principe simple qui était, si tu comprends rien, tu laisseras tomber. Si tu comprends quelque chose, je sais pas ce que tu comprends, mais si t'as envie de lire, tu lis. Et là, vraiment, il faut dire, j'étais un gamin très solitaire à cette époque. Là, notre maison était vraiment en bord de mer l'hiver, les tempêtes de sud-ouest. Là, on avait l'impression que la maison allait s'envoler. Il y avait un monstre dehors qui hurlait là, et il y avait de la joie en même temps dans ces hurlements. Et le matin, je courais pointe ou sur une falaise, là, je me blottissais dans les lames de granit pour sentir les vagues qui cognaient, qui vibraient comme ça. Ma mère était folle d'inquiétude, bien évidemment, et commençait à se demander si j'étais pas un peu dérangé. Et moi aussi, un peu, peut-être, quand même, parce que visiblement, mes centres d'intérêt n'étaient pas ceux de mes copains en classe. Et c'est là, tout d'un coup, vraiment, je suis entré en littérature à l'âge de 10 ans par la lecture de Stevenson, de Jack London, l'appel dit sautement de la forêt, il faudrait dire plutôt de la force ou du sauvage, enfin ça se discute, moi je dirais plutôt de la force. Conrad et un tout petit peu plus tard, Moby Dick de Melville. Et ça a été vraiment un choc, un éblouissement, parce que cela, j'ai compris tout de suite les enjeux qu'il pouvait y avoir, métaphysiques, etc. Bon, je ne les percevais évidemment pas plus que j'ai lu La Condition humaine à 10 ans, bien évidemment, les enjeux philosophiques, politiques, je ne les comprenais pas, mais il y avait un pouvoir de séduction des mots, pouvoir de séduction des phrases. Et j'ai su tout de suite que ces auteurs-là, ils parlaient de ce qui m'intéressait moi, c'était de la mer qui hurlait là dehors, de cette puissance obscure au cœur du monde, de la perception. La mer, c'est toute la puissance de destruction du monde, et c'est la puissance de création en même temps. Et je pensais évidemment que les deux étaient la même. C'est là que gisait la fascination, et c'est de ça que Conrad parlait.
Donc finalement, vous découvrez enfant que vous n'êtes pas seul, alors que vous croyez l'être à ce moment-là. Il y a autour de vous Stevenson et il y a Conrad. Vous allez beaucoup écrire sur Stevenson. Oui. Je ne crois pas que vous ayez beaucoup écrit sur Conrad. Vous avez donné des conférences à la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi un traitement différent finalement pour l'un et pour l'autre qui sont visiblement aussi importants quand même
pour
vous ?
Oui, mais je ne suis pas biographe. Le hasard un peu a fait que un de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire l'histoire folle de 48 arts français en Californie pendant la rue Everlore, me fait tomber sur la maison de Stevenson à Monterey. J'ignorais tout ce voyage en Californie, d'ailleurs, qui était peu connu, et les choses se sont emboîtées. Quelque part, je dirais que j'ai l'impression que je n'ai pas eu le choix. Les choses se sont enclenchées les unes après les autres comme ça. Mais ça aurait pu être Conrad, effectivement. Conrad n'aimait pas beaucoup Stevenson, mais en fait, il ne le connaissait pas du tout.
Alors pourquoi il n'aimait pas Stevenson? Parce qu'on peut s'interroger justement
là-dessus. Parce qu'il avait peur. Non, il avait tellement peur qu'on le range dans une boîte roman d'aventure. Il avait tellement peur qu'on le range dans la boîte roman maritime. La star à l'époque, c'était le capitaine Marriott et voilà, il lui avait le sentiment qu'il écrivait autre chose. Mais je crois qu'il n'a rien compris. Enfin, il n'a pas compris Stevenson parce qu'il n'a pas vraiment lu. Il aurait lu les derniers textes, Beach of Falaise, par exemple, à la fin.
C'était un mauvais lecteur, alors,
Non, c'est...
Tous ces écrivains qui ne lisent pas leurs collègues, insupportable.
Mais parce que chaque écrivain est dans son univers, le creuse et tout à ses fantasmes, ses interrogations, voilà, c'est...
On va écouter un écrivain qui, lui, a lu Conrad, c'est William Burroughs interrogé par Gérard Georges Lemaire.
C'est effectivement l'une de mes influences les plus importantes. Et vous pouvez constater que des passages entiers de mes livres dérivent de Conrad. L'un d'entre eux est bien entendu la scène entre Carl et le docteur Benway dans le festin nu. Elle est consciemment extraite de l'entretien entre Carson McCullen et le protagoniste de Western Eyes, qui a plusieurs noms russes. C'est ça que j'utilise consciemment comme modèle. J'ai lu Conrad quand j'étais très jeune. J'ai presque tout lu de lui. C'est aussi l'une des principales influences stylistiques sur mon travail.
Un entretien qu'on dirait traduit par ordinateur, mais qui ne l'est sûrement pas puisqu'il date de juin 1980, époque où l'intelligence artificielle n'était pas tellement développée. Vous retrouvez Conrad, Joseph Lebris, vous chez William Burroughs.
Michel Lebris.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Joseph.
Joseph Lebris, ça vous va bien aussi?
Oui, oui, vous confrontez avec Conrad, ça ne peut que faire...
C'est une chimère qu'on crée comme ça entre
voilà,
vos deux écritures.
Voilà, ça ne peut que faire plaisir, oui, oui. Oui, du coup, vous disiez...
Je ne sais pas, Burroughs, est-ce que vous le retrouvez? Est-ce que vous retrouvez Conrad chez Burroughs ou chez d'autres écrivains, finalement?
Non, mais il a impressionné de manière très diverse un tas d'écrivains. Ce qui me frappe, simplement, il dit « j'ai découvert très jeune ». Et je crois que c'est important de s'y arrêter, de découvrir très jeune. C'est que la manière que j'ai de percevoir Conrad aujourd'hui, j'ai lu forcément des tas de d'essais, tous brillantissimes sur Conrad, etc. Je ne dis pas qu'il m'indiffère, mais... J'en reviens toujours, moi, à cette puissance de fascination quand j'étais enfant. Cette puissance.
Et la puissance des mots.
La puissance des mots. Le rythme des phrases. Cette puissance de fascination qu'ils exercent. La puissance des images.
Mmh. Et, c'est un écrivain des images.
Ah oui, et il le dit lui-même, j'ai retrouvé une petite phrase de lui. D'ailleurs, le but que je m'efforce d'atteindre est, avec le seul pouvoir des mots écrits, de vous faire entendre, de vous faire sentir et avant tout, de vous faire voir. Et s'il a exercé une influence sur moi, Conrad, c'est ça, de faire voir. Je n'écris que les scènes que j'ai tout d'un coup, je vois, pas au, c'est-à-dire quand tout d'un coup une image jaillit qui contient ce qui va suivre de l'histoire, en fait. Et ça, peut-être, c'est une influence, effectivement, depuis l'enfance.
Et alors, est-ce que ce poids des mots, j'ai pas envie d'employer cette expression qui est devenue très connotée à cause d'un célèbre hebdomadaire, mais la force des mots chez Conrad, est-ce qu'elle est aussi forte en anglais que dans sa traduction française?
Oui, parce que moi je l'ai lu en français, bien évidemment. Il y a quelque chose, par contre, qui passe du rythme. Mais un jour, je me rappelle, c'est à Charing Cross Road, je tombe sur les 22 volumes de l'édition Dint. Je les achète, du coup, c'est juste après que je dis, bon, et comment je ramène ça à la maison? Mais, et là, c'était extraordinaire de le lire à ce moment-là, vraiment, en anglais. Alors, on dit qu'il avait un usage de l'anglais un peu difficile, puisque c'était pour lui une langue étrangère, mais comme c'est quelqu'un qui était un peu ou prou étranger à lui-même aussi, c'est peut-être pour ça qu'il s'est senti si bien dans cette langue. Mais non, je crois pas que ce soit de la maladresse. Je crois vraiment que ce qu'on lui a reproché, d'ailleurs, souvent, ses lourdeurs, ses répétitions, etc., mais vous les enlevez, il n'y a plus Conrad. C'est là qu'il réside complètement. Le pouvoir des ces images, c'est comme quelque chose qui jaillit d'une nuit opaque, d'un lac noir sans fond tout d'un coup, et qui vous saute à la figure, prend possession de vous, vous hante, et c'est ça systématiquement qu'il cherche, ou qu'il vienne, c'est peut-être aussi qu'il lui vienne tout simplement, je pense que c'était comme toujours, quand on écrit, c'est à moitié calculé, et puis il y a quelque chose par ailleurs qui passe à travers vous, que vous ne comprenez pas, que vous essayez de comprendre, et vous faites avec, et je pense qu'il faisait avec ces images qui jaillissaient comme ça, et qu'il procédait d'image en image, ce qui d'ailleurs le rapproche de Stevenson aussi, qui affolait Henry James le tenait pour le plus grand écrivain de son époque, mais il comprenait absolument pas comment il pouvait écrire d'image en image, alors que lui passait son temps à faire des tas de petits crobards pour se rassurer dans le noir, savoir où il allait. Stevenson procédait de la même manière, je crois, même si de tempérament ils étaient évidemment complètement différents.
Des images dont vous soulignez d'ailleurs, Michel Lebris, qu'elles sont très souvent des oxymores. Chez Conrad, on fonctionne par opposition. Et ces images sont des oppositions.
Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est vraiment, d'ailleurs, au cœur, c'est un réaliste sceptique, etc. Et c'est profondément romantique en même temps par cette pratique de l'oxymoron, du télescopage, enfin, comment dire, de la manifestation de l'unité énigmatique de deux termes apparemment opposés. Mmh. Ce qui renvoie à la structure fondamentale du mythe, d'ailleurs. Et je pense à la structure fondamentale du roman. Si on met de côté les romans à thèse, si on est vraiment dans la puissance propre de la littérature, ce qui dans la littérature dit, enfin disons que si la fiction dit quelque chose qui ne peut pas se dire autrement, ne peut pas se réduire au concept, c'est au niveau de l'image, du sens figuré que ça se joue. Et l'image est toujours le télescopage de deux termes opposés.
Il va se mettre à écrire vraiment en 1896, quand il quitte la marine. Mais dans le genre roman d'aventure, il y a de grands écrivains britanniques, hein, il y a Stevenson et tout ça. Qu'est-ce que lui apporte de particulier, de qu'on dit dans cette littérature de genre?
Justement, c'est que c'est pas un écrivain d'aventure, au sens où je pense que chez Conrad, ce qui prime, c'est la forme romanesque et cette vision philosophique très particulière de la place de l'homme, son rapport à la nature, le rapport des hommes entre eux, cette idée un peu d'une malédiction humaine qui nous pousse toujours au mal et à la faute. Et donc il se passe deux choses en même temps. D'abord, lui, de par la portée philosophique de ses romans, s'éloigne de cette littérature d'aventure. Et ensuite, par la forme, il va s'en éloigner doublement en transformant la façon d'écrire des romans.
La Compagnie des auteurs sur France Culture et une archive de Mathias Sénard qui répondait à Paula Jacques dans son émission Cosmopolitaine sur France Inter. Alors Michel Lebris, vous disiez tout à l'heure
simplement que ce que je viens d'entendre là me fait bondir parce que il vient de définir en disant ce n'est pas du roman d'aventure parce que ce qui vient après c'est la définition du roman d'aventure.
Ah,
roman métaphysique par essence, le roman d'aventure est métaphysique. Et mais enfin bon, ça j'en discuterai avec Mathias à Saint-Malo au prochain festival Étonnant Voyageur. Non, la structure de base du roman d'aventure anglais, parce que c'est vraiment tout vient de là, ou si vous prenez la matière de Bretagne au départ, c'est nous avons chu d'un royaume de lumière dans les ténèbres et ci-bas, et il appartient à l'être humain de se débattre dans ces ténèbres pour retrouver la lumière perdue. C'est toujours une quête, un chemin dans le chaos du monde, et donc il y a une dimension métaphysique, morale, ouais, etc., immédiate dans tout roman d'aventure.
Donc Mathias Hénard, vous voilà prévenu.
J'en discuterai avec lui. Oh, c'est un ami.
Il est invité au prochain festival ?
Oh ben oui, il est invité à tous les festivals de toute manière.
Bon, alors, tout de même, vous disiez tout à l'heure, Michel Lebris, que Conrad, ça n'était pas d'abord un intellectuel dans ses romans, que c'était d'abord des images, et en même temps, tout est philosophie chez Joseph Conrad.
Parce qu'il y a une philosophie de l'oxymoron. Bien évidemment, vous avez une méfiance vis-à-vis des concepts, vis-à-vis des littératures engagées, vis-à-vis des prises de positions politiques qui vous promettent le paradis, parce que il perçoit, lui, immédiatement cette sorte de structure contradictoire du monde, tout simplement. Et ça, je pense qu'on peut déduire toutes les attitudes de Conrad, etc., à partir de son écriture. On parlait là de ces phrases. Moi, j'avais noté comme ça les bruits furtifs et inquiets, les missives irritées et plaintives, des bandits grotesques et féroces, l'existence improbable, mère inquiète, instinct oublié et brutaux. Lugubre drôlerie, gravité pompeuse. Il procède toujours comme cela. Et c'est ça qu'on a appelé lourdeur, alors que c'est vraiment le cœur même de son propos.
Et philosophiquement aussi, il y a toujours des oxymores chez Conrad, Michel Lebris.
Ben, philosophiquement, oui, parce que là, on pourrait trouver des tas de raisons biographiques, je pense. Il avait quelques raisons à se méfier des engagements trop rapides, des idées trop affirmative, il y a un sentiment profond d'étrangeté face au monde, et il y a cette interrogation qui court tout au long, c'est rendre sensible d'abord le tragique du monde, faire affleurer comme d'une nuit de l'inconscient, comme ça, quelque chose qui est à la fois totalement étranger, en suscitant l'impression que c'est de vous en même temps qu'il parle. C'est là, de ce point de vue-là, Au cœur des ténèbres est un livre central. Mm-hmm. Et il y a cette fameuse phrase que je vous retrouverai sûrement si j'ai m'y retrouve.
Mais c'est, vous avez beaucoup de papier étalé
devant
vous.
Parce que, évidemment... Mais ça sert à rien, c'est juste pour une histoire de s'y retrouver. Mais c'est quand il remonte le fleuve qu'il entend ce capharnaüm de ces bruits sauvages, terrifiants, des visages qui surgissent entre les arbres, etc. Et ce soupçon qu'il vient, il dit ce qui était réellement terrifiant, c'était pas qu'ils étaient étrangers. C'était qu'on y reconnaissait un écho de soi-même. Mm-hmm. Et ça, c'est constant chez lui comme démarche, c'est vraiment fondamental.
Et d'ailleurs, vous dites, je crois que c'est dans Au cœur des ténèbres que Conrad se livre avec le plus de franchise. C'est le livre le plus autobiographique. Ah,
je pense, il y a une puissance hallucinée dans ce... Et dès le départ, c'est étonnant d'ailleurs comme c'est conçu, parce que finalement, tout le récit est déjà... dans la première page, quand Marlowe parle et évoque le lieu où il se trouve, en disant qu'en des temps très anciens, c'était la même chose d'une certaine manière. Et ce qu'il décrit de ce qu'était ce lieu dans le passé renvoie à ce qui va être découvert dans la remontée du Congo. Mmh. C'est ne pensez pas que c'est simplement une préhistoire, que c'est fini, qu'on n'a plus rien à voir avec tout ça. Ne pensez pas que maintenant on est dans les lumières de la raison, la sérénité, la démocratie, etc. Il y a ce tumulte féroce encore aujourd'hui. C'est ça qui me parlait à moi, même enfant, sans m'en rendre compte, quand j'entendais la tempête. Vous ne pouvez pas habiter dans un lieu comme celui où je me trouvais sans découvrir la même force en vous. Vous êtes du monde, de ce monde-là, vous êtes...
Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce que c'est quand même une descente aux enfers, ce roman Au cœur des ténèbres.
Oui, 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 mais pas seulement, pas seulement. La question, finalement, quand je dis ce sont les auteurs de ma famille, Stevenson, London, ils sont extrêmement différents de disposition psychologique et ils se seraient peut-être mal supportés les uns les autres, mais tous se posent la même question. Un, ils ont une conscience aiguë de cette puissance obscure, de ce cœur noir du monde, de cette puissance au cœur du monde, indifféremment destructrice et créatrice. Et deux, ils se posent tous, puisqu'ils sont écrivains, la question de savoir comment fait-on pour que cette puissance-là ne soit pas... Ça sert à rien de se fermer les yeux comme on le fait généralement. Dans ce cas-là, on est manipulé par cette puissance-là. Ça ne sert à rien d'essayer de la conceptualiser, elle disparaît. Elle s'évanouit, on ne la capte pas. Et la seule manière de la maîtriser d'une certaine manière et de faire du coup qu'elle soit positive, c'est de comprendre que nous sommes peut-être de ce monde, mais que nous avons aussi ce que je dirais la puissance plastique de l'imaginaire. C'est-à-dire que le travail de l'artiste à ce moment-là, enfin pour moi c'est ça, en tous les cas, c'est de mettre en œuvre cette puissance, c'est-à-dire de la mettre en action, de la faire monter. Je parlais des images chez Conrad, comme ça, cette puissance de fascination, de la faire ressentir par le lecteur. Donc de la mettre en action, en la mettant en œuvre, c'est-à-dire en forme, en la contenant dans une forme pour faire advenir dans les ténèbres du monde, peut-être, quelquefois, un visage qui rendra ces ténèbres habitables.
La littérature de Joseph Conrad, Michel Lebris, vous dites qu'elle est énigmatique, mais vous dites aussi qu'elle a un mot de passe, et ce mot de passe, c'est le mot de wilderness. Qu'est-ce que c'est la wilderness?
Oui, parce que, alors, c'est quand j'ai acheté cette édition d'Ant, je me précipite dans au cœur des ténèbres, bien sûr, et tout d'un coup, c'est un mot que je connaissais déjà à cause de Jack London, The Call of the Wild. Donc je vous dis, on l'avait traduit par l'appel de la forêt. Quand on lit le bouquin, on se demande bien qu'est-ce que la forêt a à faire là-dedans. Mais enfin, c'était une traduction.
Problème de la traduction des titres un peu éternel.
Oui, enfin la traduction, de toute manière, de ce livre-là était nulle. J'ai été très fier de pouvoir faire une traduction intégrale, enfin, de Jack London, de ce livre-là, aux éditions Phébus, justement sous le titre de l'appel du sauvage, puisque Jean-Pierre Sicre avait peur de l'appellation, l'appel de la force, et c'est pourtant bien ça qu'il s'agit. Et je tombe sur ce mot dans Conrad, et je m'aperçois de la récurrence obsessionnelle de ce mot qu'on ne peut pas voir en français, en tous les cas.
Qui est intraduisible.
Ben, quelque part, c'est un mot intraduisible. J'ai noté là, les dictionnaires proposent lieu désertique, lieu sauvage, brousse. Aubry utilise souvent le mot brousse d'ailleurs, jungle, toundra, et l'adjectif wild, sauvage, farouche, bizarre, effaré, furieux.
Et ça le définit, ça définit sa littérature ?
Mais non, mais ces mots-là n'ont rien à voir. Ce mot wilderness, c'est bien de ça qu'il s'agit, cette expérience, cette puissance au cœur du monde. Elle est au cœur de l'expérience américaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque période de crise aux États-Unis, vous voyez réapparaître des livres, et c'est frappant dans les devantures des librairies, vous voyez le mot wild et wilderness absolument partout, vous dites tiens, ça y est, ils font retour à l'expérience première. Quand vous traversez les émigrants qui traversaient la prairie. Vous avez un sentiment d'identité qui vous vient de votre rôle social, de votre famille, du regard des amis sur vous, de votre passé, etc. Et là, vous êtes éplucher comme on éplucherait un oignon, d'une certaine manière. L'expérience de la traversée de la prairie vous épluche petit à petit comme ça. Que reste-t-il de vous quand toutes ces couches sont tombées ? Reste face à face avec cette puissance énorme qui vous écrase si vous ne la découvrez pas en vous et si vous ne comprenez pas comment vous y affronter. The Call of the Wild, c'est au cœur de l'expérience, je dirais, américaine. D'ailleurs, pour ça que la psychanalyse n'a jamais tellement pris aux États-Unis. Et c'est au cœur de l'œuvre de Conrad. Cette ambiguïté fondamentale, elle se trouve condensée dans ce mot-là.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Michel Lebris, et non pas Joseph, d'être venu partager avec nous votre amour pour Joseph Conrad. Je rappelle que votre dernier roman s'appelle Kong, qu'il est paru cet été chez Grasset et qu'il est en course pour le Fémina et pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Tout de suite, c'est le moment de notre chronique du jeudi. Car vous le savez, à présent, le jeudi, ce sont de grands lecteurs qui viennent donner leur point de vue sur l'écrivain dont nous parlons toute la semaine, ainsi qu'une actualité qu'ils ont repérée. Aujourd'hui, c'est la romancière, essayiste et critique littéraire Aliette Armel qui se prête à l'exercice. Bonjour Aliette.
Bonjour.
Une réaction peut-être pour commencer sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission, ou même, pourquoi pas, ce qui a été dit depuis lundi dernier sur Joseph Conrad.
Alors, beaucoup de réactions que je pourrais avoir. Michel, j'avais la même citation, pas celle que vous alliez dans
vous
les ténèbres,
esprits,
mais celle du départ. Et ceci aussi a été un des endroits sauvages de la Terre lorsque Marlowe est à Londres au début du Cœur des Ténèbres. Et effectivement, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ma première lecture du Cœur des Ténèbres en 79. Juste après la sortie d'Apocalypse Now, voilà, qui m'avait conduit là.
Donc vous ne l'avez pas lu tout à fait enfant, vous l'avez
Moi,
lu un
Moi, je
ne
l'ai pas lu tout à
tard.
Fait enfant, oui, effectivement, l'expérience n'est pas la même. Alors, effectivement, par rapport à cette première expérience d'Apocalypse Now, oui, Alain Dugrand, quand il parle de Conrad, un écrivain pour écrivain, avec une touffeur et une complexité stylistique qui fait qu'il ne se livre pas à la première lecture, c'est vraiment ce que j'ai éprouvé en 79, quand je me suis retrouvée face à cette espèce de... Je n'arrivais même pas à qualifier ce roman dans lequel je suis rentrée et qui a bouleversé pour moi beaucoup de conceptions. Cette idée que le sauvage était partout et qu'il était dans le monde depuis les origines, même dans les lieux où nous étions, mais qu'il était toujours présent là où nous conduisaient les bateaux qui partaient de ces lieux. En fait, tout ça, ou la vision de l'Afrique qui était totalement différente de celle que j'avais apprise jusque-là. Donc, j'ai vraiment été propulsée dans un autre univers par cette lecture de Conrad et que j'ai retrouvée en écoutant Michel Lebris.
Alors, d'autant plus propulsé dans cet univers que vous avez un lien, qui est un lien géographique avec Conrad, c'est la Bretagne.
Voilà.
Et un lien peut-être même familial.
Voilà. Alors, effectivement, il se trouve que Joseph Conrad est venu très brièvement en Bretagne.
Quelques mois quand même.
Quelques mois, et qu'il est arrivé à l'île Grande. Et que... À ce moment, de 1896, les premiers instituteurs laïcs de l'île Grande, c'était mes arrière-grands-parents. Alors, comme un autre habitant de l'île Grande, Jean-Pierre Le Dantec, lui-même l'a fait pour son aïeul Félix Le Dantec, et dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle « Le disparu de Salonique » où je mets en scène mon grand-père, bien sûr fictionné, partant pour la guerre de 14 avec le nègre de Narcisse en poche, je dis qu'effectivement, s'il a le nec du Narcisse en poche, c'est parce que son enfance, quand il avait 3 ans, il a été sur les genoux de Jessie Conrad, la jeune femme que Conrad venait d'épouser, pendant que ma grand-mère racontait au couple Conrad des histoires du lieu. Et quand Alain Dugrand dit, effectivement, l'expérience de l'île Grande a été une expérience pour Conrad très noire, très sombre, c'est pas uniquement à cause de sa difficulté à écrire de Rescuer, c'est pas uniquement à cause de ce qui s'apercevait de ce mariage un peu compliqué avec Jessie, c'était sans doute aussi, et Michel qui connaît bien l'île Grande va dire s'il en est d'accord, parce que le lieu même, l'île Grande, qui était une terre profondément déshéritée, avec des gens qui étaient des carriers dans les carrières de granit rose ou Gouémonier, très pauvres, mes arrière-grands-parents étaient souvent payés par les habitants en nature, en nourriture. Donc, dans ce milieu-là, avec les tempêtes et le brouillard, on voyait l'Ankou apparaître à tous et les histoires que Conrad y a retrouvées et qu'il a traduit dans une nouvelle, Les Idiots, les sept idiots que leur mère était tellement désespérée d'avoir eu qu'elle a tué son mari avant de se jeter dans la mer pendant une tempête, c'était une histoire vraie.
Une toute petite réaction, Michel Lebrun.
Ce sont les histoires dans lesquelles j'ai baigné aussi quand j'étais enfant. Un port de pêche à côté, les marins ne racontent que des histoires aussi de naufrages, des trucs comme ça. Et les paysans, eux, ne racontent que des histoires totalement épouvantables, de morts, etc. C'est vrai qu'on a un rapport en Bretagne à la mort qui est très très singulier. Et les paysages mentaux qui générés par l'île Grande sont assez proches des paysages mentaux générés par le lieu où je me trouvais. Je suis sûr que c'est ça qui a créé l'effet d'empathie immédiate avec cet écrivain, pour ce qui me concerne.
Aliette Armel, votre actualité du jeudi, c'est Célia Oudard. C'est un roman paru cet été chez POL dont vous voulez nous parler.
Alors, j'ai pris l'antithèse de Conrad. J'ai pris un roman gorgé de soleil, gorgé d'une nature au bord d'une Méditerranée qui n'est pas en tempête, écrit par une femme, à partir d'une villa qui a été construite par une femme qui s'appelait Eileen Gray.
Grand designer.
Voilà, et dont le personnage est une femme qui s'appelle Greco, qui a beaucoup de liens effectivement avec Eileen Gray, puisque elle a de l'argent, puisqu'elle est aussi designer, puisqu'elle a une galerie à New York, qui essaye de guetter le moment où la villa construite par Eileen Gray et qui a un nom tout à fait improbable de villa E1027, où cette villa sera en vente et où elle pourra l'acheter pour la rénover. Alors E1027, c'est E comme Eileen, 10 comme la dixième lettre de l'alphabet qui nous donne J et qui évoque le prénom de son compagnon Jean, 2 comme la deuxième lettre de l'alphabet B pour évoquer le nom de son compagnon Badovici, et 7 comme le G de Gray.
Rappelez-nous le titre.
Tout un monde lointain de Célia Oudard.
Merci beaucoup Aliette Armel, à bientôt.
Sail on the clouds, sail on the waves, sail on the static, sail on the roads, sail on the highways, sail on the light, sail on the fire.
La compagnie des auteurs, deuxième partie de cette émission consacrée à Joseph Conrad. C'est du côté du Cahier de Lerne que nous allons terminer notre série avec Claude Mézonna, qui l'a co-dirigé. Claude Mézonna, enseignant en littérature anglaise à l'université Lyon 2, également préfacier d'Au cœur des ténèbres aux éditions Garnier Flammarion. Bonjour Claude Mézonna.
Bonjour.
Et merci d'être là. C'est en 2014 qu'est sorti le Cahier de Lerne sur Conrad. Ces jours-ci, on a pu découvrir la Pléiade remaniée par Gallimard. Quelle est la vivacité finalement de cet écrivain dans le milieu universitaire ou alors chez les lecteurs? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est aujourd'hui encore bien là?
Alors je pense plus que jamais.
Plus que jamais.
Plus que jamais, parce que si on lit, moi je lis beaucoup de littérature contemporaine anglaise, et le nombre d'écrivains anglais qui se réfèrent à Joseph Conrad ou qui utilisent des passages de Joseph Conrad ou qui font que des personnages lisent Joseph Conrad est absolument colossal.
Ouais.
Ils reconnaissent tous une certaine dette envers cet héritage-là.
Et peut-être reconnaissent-ils la modernité de Conrad.
Absolument. Je pense le dernier roman de McEwen, par exemple, qui traite...
Dans une coque de noix ?
Non, c'est pas, c'est Graham Swift. Pardon, je ne sais plus quel est le titre exact en français. C'est Mothering Sunday en anglais, où il y a un personnage féminin d'une petite bonne qui, tout d'un coup, dans la bibliothèque de son patron, découvre Joseph Conrad, et se met à ce moment-là à écrire. Et ce qu'elle écrit, c'est le livre que nous sommes en train de lire. Et c'est absolument fabuleux.
Alors, vous soulignez dans ce cahier de Lerne, Claude Maisonnat, la complexité de l'œuvre de Conrad, qui certes fait voyager, mais qui est aussi, expliquez-vous, le lieu d'une interrogation éthique. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu et revenir sur la complexité de Joseph Conrad ?
Tout à fait. Ça, je voudrais d'abord que je suis très content d'avoir entendu ce que M. Lebris avait à dire sur Conrad, parce qu'il a dit dans son langage d'écrivain ce que nous recherchons aussi. Par exemple, ce qu'il a dit sur The Wilderness, c'est parfaitement exact pour nous aussi.
Vous voyez, l'université vous donne un satisfait. Si
la lourdeur de la langue, par exemple, ce qu'on reproche à Conrad, nous, on a un angle d'approche légèrement différent, mais globalement, c'est bien de là que se situe le problème de l'écriture de Conrad. Et aussi, ce qui est absolument remarquable, c'est l'oxymore. L'oxymore, on le retrouve de partout dans l'univers fictionnel de Conrad, mais aussi dans sa vie.
Alors, sur cette question de l'interrogation éthique, ou alors sur la question de la modernité stylistique, esthétique de Conrad, est-ce que c'est un moderniste, par exemple ?
Alors oui, c'est carrément un moderniste. On peut pousser la chose un petit peu plus loin. Moi, je l'ai fait une fois dans un article. Bon, je continuerai pas dans ce sens-là, mais je pense que c'est assez consensuel de considérer que c'est un modernisme, parce qu'il vient après la fameuse rupture épistémologique dont parlait Foucault, etc., et la disparition de tous les grands récits, etc. Et donc, ça donne ces fameux récits qui sont dits inconclusifs. Oui. Comme la plupart des récits de Conrad.
Oui.
Alors c'est éthique parce que c'est une écriture qui pousse le lecteur à identifier sa propre position de sujet par rapport à ce qu'il lit. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de lire un texte et d'en tirer un certain nombre de conclusions en disant oui, non, c'est bien, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. En réalité, ce que fait le texte conradien, c'est de nous mettre devant notre responsabilité de lecteur. Et je pense que c'est là la principale qualité éthique de l'écriture conradienne. Parce que c'est ce qu'il fait lui pour lui-même. Si on regarde, par exemple, Conrad, il était quand même très conservateur, limite réactionnaire. Mais si vous lisez Nostromo, c'est un pamphlet marxiste.
Alors, comment vous expliquez ça, Claude Maisonnat ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité, c'est un fameux oxymore, il avait cette capacité de penser contre lui-même. Et c'est ça aussi l'éthique. Il avait cette capacité de penser contre lui-même, d'écrire sans savoir exactement ce qui allait ressortir. Il avait, c'est l'histoire de la maîtrise et de la non-maîtrise. Il y a un critique américain qui a écrit des choses absolument remarquables là-dessus. La maîtrise de Conrad, elle réside dans l'acceptation de la non-maîtrise.
Oui, le laisser aller qui voilà. Permet finalement à l'artiste d'émerger.
Et tout ça donne une esthétique du flou, de la lourdeur, comme vous avez dit tout à l'heure, ou moi je préfère dire de l'indécis. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir où se situe réellement Conrad.
Alors justement, sur une question que vous abordez dans le cahier de Lerne, qui est la question du racisme supposé de Conrad, là aussi justement il est dans l'oxymore.
Oui, alors là, c'est une polémique qui a été lancée par Achebe. Je pense que c'était pour se faire un peu de publicité sur le dos d'un auteur connu. Il avait été
irrité. Mais vous l'avez repris quand même dans le cahier de Lerne.
Oui,
c'est bien qu'il vous a intéressé cette polémique.
D'écrire un article là-dessus. Il y a des bibliothèques entières dans la critique anglo-saxonne là-dessus. C'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup battu. Maintenant, ça, c'est derrière nous. Et heureusement, mais je veux dire, le problème, c'est que c'est les gens qui disent que raciste est un affreux raciste, comme
que Conrad est un affreux raciste. Pardon, oui. Faites comme moi, vous mettez des mots à la place des autres.
Est un affreux raciste. Sont des gens qui ne savent pas lire. Il suffit de savoir lire les textes, parce que effectivement, il y a des personnages qui sont qui relèvent d'une représentation raciste, mais ils sont de l'ordre de la caricature. Ils ne sont pas de l'ordre de quelque chose que Conrad assumerait comme modèle ou comme vérité. Ils sont simplement là comme un contre-discours qui permet de montrer que ça n'est pas viable, ce genre de choses. On ne peut pas croire à des choses comme ça.
Alors, dans ce cahier Conrad, vous abordez, vous et d'autres contributeurs, un certain nombre de sujets assez originaux. En ce qui vous concerne, vous avez parlé de la question des nouvelles qui n'en sont pas. Vous avez parlé des dessins de Conrad, vous avez parlé du théâtre. J'espère qu'on aura le temps d'aborder ces divers sujets. Commençons par les nouvelles qui n'en sont pas. Pourquoi n'en sont-elles pas, d'ailleurs ?
Alors, parce que chez lui, il n'y avait pas de solution de continuité entre le roman et la nouvelle. Ça s'interpénètre en permanence. Il y avait, par exemple, un certain nombre de nouvelles qui sont devenues des romans. C'est-à-dire qu'il commençait, il avait dans l'idée
d'écrire
des esquisses,
une nouvelle. Comme des esquisses, alors ?
Voilà. Par exemple, avant Lord Jim, il avait écrit une nouvelle. Non, il a commencé Lord Jim par, en se disant, je vais écrire une nouvelle. Et puis le sujet a pris de l'ampleur, et finalement c'est devenu ce chef-d'œuvre qu'est Lord Jim. Mm-hmm. Si vous prenez Sous les yeux d'Occident, c'est exactement la même chose. Il avait commencé une nouvelle qui s'appelait Razumov à l'époque, qui est le nom du personnage central. Et de cette nouvelle est né en fait un autre des plus grands romans de Conrad.
Ouais. Nouvelle qu'on peut d'ailleurs, je le dis au passage, retrouver dans le volume quarto des nouvelles complètes qu'avait établi Jacques Darras en 2003.
Absolument.
Chez Gallimard.
Voilà. Mmh. Et par ailleurs, les nouvelles qu'il écrivait se trouvent à une espèce de frontière générique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une nouvelle, et lui, il ne sait pas ce que c'est non plus. D'ailleurs, il utilise rarement le terme « short story » en anglais, il utilise le terme « story », c'est beaucoup plus prudent, où il utilise le terme « tale » beaucoup plus souvent.
Le conte, oui.
Et les Anglais, eux, ont contourné le problème en inventant un nouveau terme qui est « novella ». Parce que si vous prenez, par exemple, « Le cœur des ténèbres », qui est supposé être une nouvelle, c'est supposé être une nouvelle, mais en réalité, tout le monde, et moi le premier, le considère comme un des plus grands romans du XXe siècle.
Et alors vous dites, Claude Mézona, que ce qui caractérise l'ensemble des nouvelles de Conrad, et là je vous cite, c'est le fait que la plupart d'entre elles fonctionnent sur le plan narratif comme des mises en scène de l'écriture.
Oui, absolument. Ça,
qu'est-ce
ça
que
tient
vous voulez dire par là ?
À la structure narrative des nouvelles. La plupart des nouvelles fonctionnent comme Au cœur des ténèbres, c'est-à-dire que vous avez un récit en chassant, quelquefois deux, et un récit en chassé. Et c'est les rapports entre ce récit enchassant et ce récit enchassé qui nous forcent à nous interroger, ou du moins qui forcent nous en tant que lecteurs, mais qui forcent aussi le narrateur à s'interroger sur ce qu'il est en train d'écrire. Si vous prenez Au cœur des ténèbres, Marlowe n'arrête pas de dire « mais comment est-ce que je peux raconter cette histoire ? Je n'ai pas les mots qu'il faut pour raconter cette histoire. » Donc il y a une interrogation, il y a une réflexivité sur l'écriture elle-même, comme étant quelque chose d'impossible, mais qu'il faut néanmoins, évidemment, poursuivre.
La Compagnie des auteurs sur France Culture. Vous avez reconnu cette musique, je parie, Claude Mézona ? C'est Philippe Glass.
C'est l'agent secret.
Voilà, c'est l'agent secret.
Oui, c'est la musique de l'agent secret. Oui.
Alors, il a été adapté aussi au cinéma. Ça fait l'objet d'un article dans le cahier de Lerne que vous avez donc coordonné. Et en particulier, donc, son roman, L'agent secret.
Oui, oui. Alors, L'agent secret, c'est aussi un des grands roman de Conrad, et il se trouve qu'il a été adapté au cinéma par Christopher Hampton, et que Christopher Hampton a demandé à Philip Glass de proposer une musique, et c'est cette musique qui sert d'illustration sonore dans tout le film. Donc j'avais demandé à quelqu'un de bien vouloir analyser un peu le fonctionnement de cette musique, voir la façon dont Philip Glass comprenait ou lisait l'œuvre de Conrad.
Et alors, qu'est-ce que vous entendez de conradien dans cette musique de Philip Glass ?
Ah, il y a d'abord une atmosphère, quand même. Si on écoute la totalité de la bande, on a quelque chose d'assez mystérieux, quelquefois d'assez violent, et qui correspond évidemment tout à fait à l'atmosphère du roman. L'atmosphère, si vous voulez, c'est au niveau atmosphérique, on pourrait dire, que l'osmose a lieu.
Mmh. Hitchcock, qui a adapté L'Agent secret dans un film qui s'appelle Sabotage, oui, a eu une polémique, je crois, avec François Truffaut. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors, je l'ai retrouvé sur vos antennes ou sur les archives de Radio France. Il a une grande série de conversations avec Truffaut. Oui. Et il contestait un certain nombre des... Truffaut contestait un certain nombre des techniques utilisées, parce qu'évidemment, Sabotage n'est pas une illustration littérale, comment ça pourrait l'être, hein, de l'agent secret. Il y a un certain nombre de choses qu'il a déplacées, etc. Et il s'en prenait aussi aux acteurs. Il y a un problème ici, c'est que ces textes-là, la totalité de cette conversation a lieu en anglais. Mmh. J'ai pu y avoir accès, simplement, et je l'avais transcrite en français, simplement, on ne m'a pas donné les droits de la mettre dans le cahier de l'herbe. Voilà.
Ah, problème
donc
de
c'est
droit.
Pour ça que j'ai fait un tout petit encart pour raconter un peu globalement ce que Truffaut disait du Conrad de Hitchcock. Voilà,
en tout cas, vous avez eu les droits pour reproduire quelques dessins de Conrad, parce que il était également... alors, peut-on dire qu'il était un dessinateur, ou dirons-nous simplement qu'il était un écrivain qui dessinait Claude Maisonneuve?
Ce n'était pas un dessinateur, c'était un caricaturiste amateur, on dirait.
Ah, mais les dessins ont quand même une certaine...
Les dessins sont absolument...
Techniques, en tous les cas, et puis même
ça,
d'ailleurs.
Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils dessinent tous, ils représentent tous des jeunes femmes, souvent dans des positions lascives, etc. Et quand il apparaît des hommes là-dedans, les hommes sont toujours ceux qui ont peur des femmes. Ils sont toujours sur le point de fuir. Ils sont tout petits, tout étriqués sur le sofa, et ils se tiennent le plus loin possible de la femme lascive, etc.
Ou de la femme serpent, même.
Ou de la femme serpent. Il y en a une qui est carrément une femme serpent. On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur du féminin, là.
Que vous retrouvez par ailleurs chez lui.
Qui se retrouve d'une certaine manière chez Conrad. Bien que si on reprend, c'est dernière partie de mon travail, les romans qui traitent du féminin, on s'aperçoit qu'en fait Conrad est un grand écrivain du féminin. Mm-hmm. Mais pas du féminin au sens classique où on l'entend.
Oui.
Il montre à quel point il y a quelque chose d'insaisissable qui est...
Donc il est l'écrivain de la peur du féminin, peut-être, tout simplement.
Ces personnages, oui. Si vous prenez la plupart des personnages conradiens, ils ont peur du féminin. Mm-hmm. Conrad, peut-être un peu moins, je dirais.
Il ne faut pas confondre personnage
voilà. Et
auteur, on ne le répétera jamais assez. Pour terminer, on peut peut-être parler un petit peu du théâtre, parce que c'est un pan totalement oublié de l'œuvre de Conrad, et vous avez souhaité quand même que dans le cahier de Lerne figure un petit peu l'histoire de son rapport problématique avec le théâtre.
Tout à fait, c'est encore une position oxymoronique ici. À la fois, il disait détester le théâtre, il y a des lettres où il dit... Je ne vais pratiquement jamais au théâtre. Je n'aime pas le théâtre. Mais en même temps, il avait ce désir profond d'apparaître sur la scène. Il y avait chez lui un désir permanent d'être reconnu. Par exemple, il était prêt à faire publier ses romans en français, le tout premier, en français, sous le nom de sa fameuse tante Poradovska, en disant « j'apparaîtrai en tout petit ». Ce qu'il voulait, ce qui était prioritaire pour lui... c'est la publication. Mmh. Et ce qu'il voulait aussi, c'est être reconnu comme auteur de théâtre.
Ce qui n'est jamais arrivé, alors.
Non, il a écrit plusieurs pièces.
Trois pièces, c'est ça ?
Trois pièces, mais elles n'ont eu aucun succès. Il y a même eu une version, il a fait le scénario, le script d'un film tiré de la nouvelle qui s'appelle Gaspard Ruiz, qui n'est jamais sorti, donc on ne le verra jamais, mais il était fasciné par cette idée qu'on puisse dramatiser ces pièces. Et simplement, quand on regarde de très près, quand on compare le texte de la nouvelle et le texte de la pièce, Les changements sont minimaux. Il se contentait simplement de découper pour faire des dialogues.
Oui, peut-être que finalement, il n'avait précisément pas le sens du théâtre, tout simplement.
Non, je crois qu'il n'avait pas le sens du théâtre. Pourtant, il dit lui-même, j'ai le sens du théâtre. Lui, il le dit. Mais la preuve, c'est que aucune de ses tentatives n'a fonctionné.
On rappelle quand même les titres des trois pièces. Peut-être que ça pourrait intéresser un certain nombre d'auditeurs qui voudraient, pourquoi pas, les monter. Faisons revivre le théâtre de Joseph Conrad. Oui. Alors, Encore un jour, donc tiré de la nouvelle Demain. Anne la Rieuse, dérivée de À cause des dollars. Et la troisième, c'est donc une adaptation de L'Agent secret, qui date de 1907. Vous avez pu les voir quand même ou
non, malheureusement, je n'ai pas pu les voir. Je sais que j'ai le texte de Anne la Rieuse. Effectivement, c'est un peu spécial, elle est à part des deux autres, parce que c'est du Grand Guignol.
Ouais.
Il s'était inspiré sur le modèle du Grand Guignol à la française, qui avait émigré en Angleterre, qui était à la mode en Angleterre, et il se disait, si je fais une pièce Grand Guignol, mais je vais...
Ça va marcher.
Ça va marcher.
Enfin.
Voilà.
Merci beaucoup Claude Maisonnat. Je rappelle donc que vous avez coordonné le Cahier de Lerne consacré à Joseph Conrad avec Josiane Paco-Huguet, que vous êtes l'un des principaux contributeurs de ce cahier. Vous avez également préfacé cette année l'édition Garnier et Flammarion de Au cœur des ténèbres, destinée davantage, en premier lieu disons, aux classes prépa scientifiques. La semaine prochaine, on traverse l'Atlantique pour découvrir l'œuvre de deux romancières américaines que nous avons souhaité rapprocher. Il s'agit de Carson McCullers et de Joyce Carol Oates. Mais tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie. Entendez-vous ? Entendez-vous ce bruit ? Le râteau de l'aube sur les forêts avec les rames de main tranchées. Vous nagez vers le pays futur. Ce sont les paroles de Sergueï Essénine chantant la révolution d'octobre. Hier, nous sommes passés de Pasternak à Essénine et nous allons tenter aujourd'hui de passer de Essénine à Pasternak dans une alternance de poèmes. Entendez-vous ce bruit? Le râteau de l'aube sur les forêts, avec les rames de main tranchées, vous nagez vers le pays futur. Nagez dans les hauteurs. Depuis l'arc-en-ciel versez le cri du corbeau. L'arbre blanc laissera tomber bientôt le feuillage jaune de ma tête. Plus loin, dans ce poème qui s'appelle « Les vaisseaux juments », « Qui es-tu, ma Russie? Qui es-tu? À qui ce puisoir dans l'écume de tes neiges? Sur les chemins de leur langue affamée, les chiens lèchent le bord de l'aube. Pas besoin de courir là-bas. Ici, près des hommes, c'est plus chaud. Dieu a donné l'enfant à la louve. L'homme a mangé l'enfant de la louve. » Sergueï Essénine est issu de la campagne et revient régulièrement à se souvenir de son enfance. Mais qui donc chantait dans ce fol incendie de cadavres? Regardez, un troisième œil éclos du nombril des femmes. Le voici, il sort, regarde comme la lune. Ne va-t-il pas repérer un os plus charnu? Il est clair qu'en riant de moi-même, j'ai chanté ma merveilleuse hôtesse. Tiré d'un autre poème. J'aime mon pays natal, je l'aime sans compter, bien qu'il garde une tristesse de saule rouillée, le mufle barbouillé de porc magré, de même que dans le silence nocturne la voix sonore du crapaud. J'ai cette tendre maladie du souvenir d'enfance, je rêve des soirs humides et brumeux d'avril, on dirait que notre érable s'accroupit pour se réchauffer à la flamme de l'aube. Plus loin, Pauvre paysan, à coup sûr vous êtes enlaidi. Craignez Dieu et les marécages. Oh, si vous pouviez savoir que votre fils est le meilleur poète de la Russie. Votre cœur, pour lui, ne se couvrait-il pas de givre à le voir marcher pieds nus dans les flaques d'automne? Oh, froide campagne, et puisque nous voilà repartis vers la Russie éternelle, passons à Pasternak. Dans une citation du docteur Jivergo, qui se termine par des poèmes, « La nuit d'hiver ». La neige volait inlassable, partout volait, la chandelle sur notre table brûlait. Comme en été les éphémères, les flocons blancs à la fenêtre de lumière venaient volant. Il la décorait d'innombrables traits étoilés, La chandelle sur notre table brûlait, brûlait. Sur le plafond couraient des ombres de pieds de mains qui se croisaient dans la pénombre, tels nos destins. Puis de petits souliers tombés sur le plancher, un pleur de cire sur ta robe qui s'épanchait. Dans la rafale impénétrable, tout basculait, la chandelle sur notre table brûlait, brûlait. Sur sa flamme soufflait un vent d'ardeur étrange, de grandes ailes se croisant, comme d'un ange. En février d'interminables flocons volés, la chandelle sur notre table brûlait, brûlait.
Merci Jacques Bonafé, c'était le dernier épisode de votre semaine russe.